Bonjour à toutes et à tous.
Da jia hao.
En ce dimanche de Pâques, nous nous réjouissons car Jésus-Christ est ressuscité, vainqueur sur le péché et sur la mort. Nous nous réjouissons aussi parce que Louis veut témoigner ce matin par le baptême qu'il a placé sa confiance en ce Jésus. Et pour nous tous, le texte que nous venons de lire explique ce qui s'est passé dans la vie de Louis, comme dans celle des frères et sœurs ici présents. Et ce n'est rien de moins qu'un passage de la mort à la vie. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Et l'apôtre Paul indique ici, dans notre texte, aux chrétiens d'Éphèse et sans doute à ceux des alentours, ce que Dieu a fait pour eux dans sa grâce. Depuis le début de la lettre, Paul ne cesse de revenir sur ce que Dieu a fait pour eux. Il le loue pour toutes ses bénédictions. Les chrétiens ont été choisis, adoptés, pardonnés, éclairés, unis à Christ. Donc Paul loue Dieu pour toutes ses bénédictions, le fait que les chrétiens ont été choisis, ont été adoptés, pardonnés, éclairés, unis à Christ. L'apôtre remercie Dieu également pour la foi et l'amour qui se trouve chez ses frères et sœurs. Et il prie qu'ils soient toujours plus éclairés par l'Esprit Saint afin de connaître Dieu encore davantage et de mieux comprendre leur espérance. Et dans notre texte, Paul met l'accent sur la grâce de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Paul oriente nos regards sur Dieu et sur sa bonté. Et la grâce de Dieu désigne rien de moins que la faveur qu'il nous accorde alors que nous ne le méritons pas, et nous verrons dans un instant pourquoi. Et ce qu'il dit des chrétiens d'autrefois est valable pour les chrétiens d'aujourd'hui. Et que dit-il ? Nous étions morts, mais dans sa grâce, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Et premièrement, nous étions morts. Si je devais questionner certains d'entre vous sur votre vie avant de connaître le Seigneur, quels seraient les mots que vous utiliseriez pour décrire ce que vous étiez autrefois ? Ignorant, menteur, tricheur, rebelle, arrogant, méprisant, sans Dieu, esclave. Voici les mots que l'apôtre Paul a employés à propos de ses destinataires. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Paul ne fait pas de détour, la réalité qu'il met en évidence est que les Éphésiens étaient morts spirituellement parlant. Parce qu'ils ont offensé Dieu par leur péché, ils étaient morts séparés du Dieu vivant. Et le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Et leur conduite ne révélait rien de plus que la façon de vivre de ce monde. Personne n'ignore combien notre environnement nous influence, que ce soit notre entourage, que ce soit le mode de vie que les autres adoptent, ou encore les messages publicitaires. Des hommes et des femmes qui vivent dans un monde en opposition à Dieu ne peuvent que vivre à l'encontre de la volonté de Dieu, à moins d'un miracle. Et Paul précise même que les Éphésiens vivaient sous l'influence du diable, celui qui est désigné ici comme le prince de la puissance de l'air. Et si nous parlons de l'air, c'est parce que les puissances mauvaises se trouvent dans le monde céleste, cet endroit invisible mais bien réel. Nous avons sans doute en tête la représentation populaire que les anges sont en haut et les démons en bas sous terre. Mais nous lisons vers la fin de la lettre aux Éphésiens, en effet ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
Mais
Ce prince de la puissance de l'air est aussi celui qui cultive activement dans le cœur des hommes la rébellion contre Dieu. C'est une réalité qui se vérifie chaque jour lorsque nous voyons comment tourne notre monde. Lorsque nous parlons des guerres, du terrorisme, sans parler des nombreux faits divers qui montrent la corruption et la méchanceté de l'homme. Et c'est donc ainsi qu'avant d'être chrétiens, nous marchions, certes sans aller aussi loin que ce que je viens de citer. Mais tous, nous avons un passé peu glorieux. Nous étions morts spirituellement, voilà ce qui nous qualifiait. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Paul ne veut pas parler uniquement des Éphésiens. Nous tous aussi, écrit-il, en faisant référence à lui-même et aux chrétiens d'origine juive. Nous étions comme vous, morts spirituellement, tellement loin de faire ce que Dieu veut. Et Paul évoque les désirs coupables que l'être humain pécheur peut avoir lorsqu'il n'est pas en relation avec Dieu. Par exemple, l'envie, la jalousie, la rivalité, l'orgueil, les excès de colère. Livré à lui-même, dans sa nature propre, l'être humain ne peut pas désirer ce que Dieu veut. Une telle personne fait tout ce qu'elle veut. Et il en est ainsi depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Pécheurs, nous étions destinés à la colère de Dieu. Et si l'injustice que nous voyons dans ce monde ou dont nous sommes victimes nous met déjà en colère, combien Dieu a bien plus de raisons d'être en colère lorsqu'il voit toutes ces injustices commises par les hommes, quand il voit que le monde s'oppose à lui. La colère de Dieu est tout à fait justifiée. C'est la réaction qu'un Dieu saint et juste a par rapport au péché. Or, plus d'une fois, la Bible nous enseigne que Dieu a exprimé sa colère par ses jugements. Nous pouvons citer comme exemple le déluge, très tôt dans l'histoire de l'humanité, ou encore la destruction de Sodome et Gomorre, des villes où la perversité était à son comble. Mentionnons aussi le lieu où Dieu a jugé notre péché, la croix sur laquelle Jésus a été cloué, condamné à notre place, à cause de nos convoitises, à cause de notre rébellion. À la croix, nous avons un aperçu de ce que nous méritions. Et avant de poursuivre, rappelons-nous que nous étions destinés à la colère, des personnes qui devaient subir la colère de Dieu, et c'est tout ce que nous méritions. Avec ces trois versets, nous nous souvenons d'où nous venons. Nous conservons un portrait réaliste de ce que nous étions devant Dieu. Et c'est Dieu, dans sa parole, qui nous dresse le portrait le plus fidèle de notre passé. Nous étions morts spirituellement sous l'influence aveuglante du monde, du diable et de nos propres penchants coupables. Nous étions voués à subir la colère divine. Pourtant, ce tableau sombre mais réaliste que dresse l'apôtre Paul n'est pas là pour nous désespérer, mais pour montrer par contraste combien Dieu a été bon avec nous. Parce que nous devons dire, mais Dieu est riche en compassion. Vous connaissez sans doute le cantique Amazing Grace. Connaissez-vous aussi son compositeur, John Newton? Cet Anglais du XVIIIe siècle qui a eu un avant et un après. Avant, il était impliqué dans le trafic d'esclaves. Mais c'est lors d'une tempête en mer qui menaçait son bateau qu'il s'est converti à Jésus-Christ. Il est alors devenu pasteur anglican et a milité pour abolir l'esclavage. Et voici ce que nous pouvons lire à l'arrière de sa tombe. John Newton, pasteur, jadis incroyant et débauché, serviteur d'esclaves en Afrique, mais par la grande miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, gardé, transformé, pardonné et choisi pour prêcher la foi qu'il chercha longtemps à détruire.
Yeah.
Comme pour John Newton, la bonne nouvelle que nous avons dans l'Évangile, c'est que Dieu ne nous a pas laissés morts spirituellement. Dans notre misère, nous n'avions aucun moyen, vraiment aucun, pour nous en sortir. Il fallait que quelqu'un qui soit extérieur à notre monde corrompu puisse nous secourir. Et cela ne pouvait être l'un d'entre nous. Ce ne pouvait qu'être lui, Dieu. C'est pourquoi nous lisons « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Dieu ne nous a pas laissés morts parce que Dieu est riche en bonté, en compassion. Comme le disait un commentateur, Dieu est si bon qu'il nous accorde le contraire de ce que nous méritions. Dieu nous aime tant qu'il nous a rendus vivants avec Christ en nous accordant la vie que des pécheurs ne méritent pas. C'est ce que nous appelons la grâce. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Et en effet, c'est Jésus-Christ qui nous a obtenu le droit à la vie, en mourant lui-même pour nous et en étant ressuscité. Par sa mort et sa résurrection que nous célébrons aujourd'hui, Jésus a réglé une fois pour toutes la question du péché qui nous séparait de Dieu et qui faisait que nous étions morts. Désormais, pardonnés de toutes nos fautes, nous pouvons être en relation avec ce Dieu riche en compassion. Telle est la nouvelle vie que Dieu offre à celles et ceux qui lui font confiance. Et nous lisons encore, verset 6, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Comprenons que notre lien avec Jésus est si fort que nous partageons spirituellement ce qu'il a vécu de son côté. Dans le premier chapitre, c'est déjà ainsi que l'apôtre Paul décrit la puissance de Dieu. Éphésiens 1, verset 20, « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Cette puissance, Dieu l'a mise en œuvre pour nous sauver de telle sorte que nous pouvons affirmer qu'en Christ, unis avec lui, nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes. « Nous ne le vivons pas dans notre corps maintenant, mais déjà spirituellement, c'est une réalité. Et un jour, nous vivrons cette réalité dans notre corps transformé. Et c'est le professeur Dominique Anger qui écrit à ce sujet. S'il ressuscite, nous reprenons vie avec lui, spirituellement pour l'instant, physiquement lors de son retour. S'il monte au ciel, nous y accédons en sa compagnie, spirituellement pour l'instant, physiquement quand le ciel et la terre seront renouvelés à la fin de l'histoire. Je sais que ce qu'écrit l'apôtre Paul conserve une part de mystère pour nous. Nous sommes plutôt sensibles à des expériences, et là je vous parle de réalités qui ne sont pas palpables. Mais si Dieu nous dit dans sa parole qu'il en est ainsi, nous pouvons être reconnaissants et nous en réjouir, sachant ce que nous étions autrefois. Sachant ce que nous méritions en réalité, la mort plutôt que la vie, la condamnation plutôt que le salut. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre combien tout cela est merveilleux. Nous étions si bas et en Christ, Dieu nous élève si haut. Connaissez-vous un sauvetage plus grand que celui-là? Pour quelle raison Dieu a-t-il fait cela pour des êtres qui ne le méritent pas? Par bonté, par amour, par grâce. Verset 7, il a fait cela afin de montrer, dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. La gloire revient à notre Dieu et on ne cessera pas dans les siècles à venir et pour l'éternité de célébrer Dieu pour sa grâce infinie qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Aujourd'hui même, jour de Pâques, nous célébrons Dieu pour sa grâce. Pour des morts qui ont reçu la vie, nous ne devons pas oublier que Dieu est intervenu pour notre salut, poussé par son grand amour et par sa compassion envers nous. Et ce matin, mes amis, si vous n'avez pas encore fait ce pas, Dieu vous appelle à accepter ce qu'il a fait pour vous, à lui faire confiance, à vous détourner de votre vie passée, à recevoir cette vie nouvelle. Ne Nous avons vu que Paul rappelle à ses destinataires leur ancienne manière de vivre, qui était aussi notre condition passée. Il évoque ensuite combien Dieu a été bon envers eux, comme il a été bon envers nous. Et enfin, nous devons regarder de plus près en quoi consiste cette nouvelle vie. Troisièmement, nous sommes vivants par sa grâce. Et nous lisons en versets 8 et 9, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » En tant que chrétiens, nous pouvons nous définir ainsi. Des hommes et des femmes sauvés par grâce, parce que Dieu l'a bien voulu et qu'il nous aime vraiment. Alors que Dieu nous offre gratuitement son salut, il nous faut répondre à son offre, et c'est là qu'intervient la foi. Lorsqu'un gardien de prison questionnait Paul et un de ses collaborateurs en demandant « Que faut-il faire pour être sauvé ?» Ils lui ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Croire au Seigneur Jésus, voilà la foi qui est demandée. Mais comment des gens qui sont morts spirituellement, qui sont rebelles à Dieu, pourraient-ils croire en Jésus? Eh bien, la réponse se trouve dans notre texte. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pensez à cette scène absurde, une personne qui est en train de se noyer, qui est secourue par un maître nageur. Et à un mètre de la rive, cette personne dit au maître nageur, « Laissez-moi maintenant nager le dernier mètre. » Pourquoi ne pas se laisser secourir jusqu'au bout? Pourquoi vouloir nager le dernier mètre tout seul? Dieu est entièrement l'auteur de notre salut à 100%. Il n'y a même pas 1% qui viendrait de nous ou de nos œuvres. Personne ne peut donc se vanter ou faire valoir ses mérites. Nous n'en avons aucun. Et chaque fois que quelqu'un vient à Christ, chaque fois que quelqu'un répond positivement au message de l'Évangile, comme ça a été le cas pour lui, c'est parce que Dieu est intervenu dans sa grâce. Cela ne vient pas de lui, c'est un don de Dieu. Et cela signifie que nous n'avons aucun mérite dans le fait de croire en Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres Mais Dieu a bien voulu nous faire comprendre sa grâce. Peut-être que le contexte de certains d'entre nous semblait plus favorable, le fait de grandir dans une famille chrétienne, le fait de fréquenter une église depuis son enfance. Mais même là, vous le savez comme moi, rien n'est automatique. Dans sa grâce, Dieu sauve aussi bien la personne qui a connu un contexte favorable que la personne qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile avant l'appel de Dieu. Par sa grâce, nous sommes sauvés, et même si nous faisons le bien à présent, même si nous suivons ce que Dieu veut, il ne nous est pas possible de nous vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a sauvés pour une nouvelle manière de vivre qui n'a plus rien à voir avec notre passé. Nous avons vu combien notre passé était désastreux et honteux parce que nous étions loin de Dieu. De nous-mêmes, nous n'aurions jamais, jamais voulu changer notre manière de vivre. Mais dans sa grâce, Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Et c'est ce qu'il faut comprendre quand Paul écrit que nous avons été créés en Jésus-Christ. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il exprime la même idée en disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » En passant de la mort à la vie, nous sommes aussi passés de notre ancienne manière de vivre à une nouvelle manière de vivre que Dieu a préparée d'avance. Toutes les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir en tant que chrétiens, Dieu les a déjà
préparé.
Oh, vraiment, nous ne pouvons pas nous vanter ni de nos initiatives, ni de nos projets pour Dieu, ni de nos réussites. Tout l'honneur revient à Dieu. Et avouons-le, c'est si dur pour nous de nous enlever le mérite de nos bonnes œuvres. Nous ne nous rendons pas toujours compte que Dieu les avait préparés d'avance. Bien entendu, nous pouvons remercier un frère, une sœur pour le service rendu à l'Église. Mais ultimement, c'est toujours Dieu qui doit être célébré.
Alors,
Prenons conscience, frères et sœurs, que sans Dieu, nous ne pourrions rien accomplir de bon qui entre dans sa volonté. Et aujourd'hui, et pour le reste de notre vie sur terre, nous apprenons à marcher dans ses bonnes œuvres en faisant tout ce que Dieu veut. Et nous savons que Dieu nous aidera, lui qui nous a donné son Esprit Saint, pour nous conduire et pour nous transformer encore et encore. Quelles sont les bonnes œuvres que le Seigneur nous demande d'accomplir en tant qu'Église? Quelles sont les bonnes œuvres que nous allons accomplir personnellement dans la semaine qui vient? Et très certainement que Dieu veut que nous puissions y réfléchir. Que chaque matin, nous fassions cette prière. Seigneur, montre-moi les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour aujourd'hui. L'orientation de notre vie est désormais tournée vers le bien, vers ce que Dieu veut, et non plus vers nos anciens penchants, vers ce qui nous rendait spirituellement morts. La grâce de Dieu est étonnante et mérite d'être célébrée durant toute l'éternité. Dans ce texte d'Éphésiens 2, l'apôtre Paul nous l'a rappelé. Nous étions morts, mais dans sa grâce, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ pour vivre d'une manière nouvelle. Et ce matin, nous prenons de nouveau conscience qu'en tant que nouvelle créature, nous vivons toujours dans un monde qui n'a pas été transformé et que notre propre transformation n'est pas encore achevée. Et c'est ce qui explique tant de luttes, tant de difficultés à vivre comme Dieu le veut. Mais nous savons que pour avancer, pour grandir dans la foi, pour persévérer, nous dépendons de Dieu qui seul peut nous changer. Et dans sa grâce étonnante, nous saurons un jour, quand Christ, notre Sauveur ressuscité, reviendra exactement comme Dieu le veut. Et nous ne finirons plus de le louer pour ça. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Nous te bénissons aujourd'hui pour la grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ. Merci d'avoir fait preuve de compassion à notre égard.
chrétienne.
Nous voulons nous souvenir que nous étions morts séparés de toi. Mais tu nous as fait comprendre ce que représentait le sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection. Et avec lui, tu nous as rendus à la vie. Pour vivre une vie nouvelle. Une vie de bonnes œuvres. Que tu as préparé d'avance. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi. Parce que nous savons que nous te devons entièrement notre salut. Qu'il n'y a pas une seule petite part de notre côté. Mais qu'au bout du compte, c'est toi qui nous sauveras. Merci Seigneur de nous conduire encore dans cette semaine qui vient. À pouvoir pratiquer ces bonnes œuvres que tu nous appelles à faire. Parce que nous avons été sauvés. Et que nous voulons le faire pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous te prions.